Toi, Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 26 avril 2023. En direct de Washington, Idrissa Seludia. Pour commencer, les titres. Le président américain Joe Biden, qui est âgé de 80 ans, annonce officiellement sa candidature à la réélection. Au Soudan, cessez-le-feu partiellement respecté à Khartoum, poursuit de l'exode. Au moins 11 immigrants morts noyés au large de la Libye. L'Afrique du Sud ne quitte pas la CPI. La présidence évoque une erreur de communication. Le cerveau de l'attentat devant l'aéroport de Kaboul en 2021, tué par les talibans. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Ici aux États-Unis, Joe Biden, 80 ans, a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, promettant de rendre sa dignité à l'Amérique des travailleurs. Son nouveau slogan de campagne dit « Finissons le travail ». Le point avec Alexandrine Ollognon.
« Je suis candidat à ma réélection », a déclaré le président américain dans une vidéo de 3 minutes, publié sur Twitter, associant l'actuelle vice-présidente Kamala Harris. Le 25 avril, c'est aussi le 4e anniversaire de son entrée en campagne pour aller déloger Donald Trump de la Maison-Blanche. Depuis le début de l'année, Joe Biden martèle sa volonté de redonner à l'Amérique populaire une place centrale dans la société. Hier, il a rendu hommage aux maçons, plombiers et ouvriers du pays. Il a déclaré devant des syndicalistes que c'est la classe moyenne, pas Wall Street, qui a construit l'Amérique. Son principal handicap reste son âge. Quelles seront ses chances s'il doit faire face à un ou une adversaire plus jeune en novembre 2024 ? Le nom de Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, âgé de 44 ans, est souvent cité, mais il ne s'est pas encore déclaré candidat.
Actuellement, c'est son prédécesseur Donald Trump, 76 ans, encore candidat à la présidence, qui mène dans les sondages côté républicain. Pour l'heure, dans la partie de poker menteur qui se joue entre la Maison-Blanche et la Chambre des représentants autour du plafond d'endettement des États-Unis, le républicain Kevin McCarthy espère avancer ses pions en faisant voter dès ce mercredi son projet qui prévoit une baisse sans précédent des dépenses publiques. Pour les États-Unis, l'enjeu est de taille. Jamais jusqu'ici, le pays ne s'est retrouvé en défaut sur sa dette et cette dernière sert de valeur refuge pour le secteur financier mondial du fait de la solidité de la garantie américaine. Or, un défaut provoquerait une catastrophe économique et financière, a de nouveau alerté mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d'un discours en Californie. Les talibans ont tué le cerveau de l'attentat suicide aux abords de l'aéroport de Kaboul lors du retrait des troupes américaines d'Afghanistan le 26 août 2021, attentat qui avait fait au moins 173 morts, dont 13 soldats américains. C'est ce qu'a indiqué mardi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, confirmant des informations des médias américains. Le djihadiste, dont l'identité n'a pas été précisée, ni les circonstances ou la date de son décès, était, a-t-il affirmé, un des leaders du groupe État islamique Khorasan, directement impliqué dans la préparation d'opérations comme celle d'Abbey Gate, l'un des 3 points d'accès à l'aéroport de Kaboul.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Soudan, le cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les belligérants sous l'égide des États-Unis a été partiellement respecté mardi à Khartoum, tandis que les pays étrangers accélèrent les efforts pour évacuer leurs ressortissants de ce pays en plein chaos. Nous faisons le point avec John Linden et Nani Talani. D'abord, John.
10 jours après le début des combats qui ont fait plus de 459 morts et plus de 4000 blessés selon l'ONU, l'armée a visé mardi avec ses avions les positions des paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide, qui ont répondu par des rafales de mitrailleuses lourdes dans les banlieues de Khartoum, ont rapporté des témoins à l'AFP. De nouveaux raids aériens visant des véhicules des FSR ont eu lieu en soirée dans le nord de Khartoum, d'après d'autres témoins. Et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, qui s'opposent à l'armée du général rival Abdel Fattah al-Burhan, au pouvoir depuis un coup d'État en octobre 2021, ont affirmé avoir pris le contrôle d'une raffinerie et d'une centrale électrique à 70 km au nord de Khartoum, d'après une vidéo mardi. L'armée, elle, a signalé sur Facebook un important mouvement des FSR vers la raffinerie dans le but de profiter de la trêve pour en prendre le contrôle. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète pour sa part d'un risque biologique énorme après la prise par l'une des parties combattantes d'un laboratoire public de santé de Khartoum qui renferme des agents pathogènes de la rougeole, du choléra et de la poliomyélite.
Merci John. Profitant de cette potentielle accalmie au Soudan, jusqu'à 270 000 personnes pourraient encore fuir au Tchad et au Soudan du Sud voisin, a alerté mardi l'ONU. Pour leur part, des pays étrangers se précipitent pour évacuer leurs ressortissants du Soudan dans le cadre de la trêve de 3 jours convenue entre l'armée et une force paramilitaire rivale, Nanit Talani.
Plus de 2000 personnes de 16 nationalités ont été transportées hors du pays, selon Reuters. Plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont déjà été évacués sur environ 1500 qui vivaient dans le pays, d'après un responsable européen. Londres anticipe l'évacuation de 2000 ressortissants britanniques. L'armée américaine a évacué tous les employés du gouvernement américain et un petit nombre de membres du personnel diplomatique d'autres pays. Une source diplomatique a indiqué qu'un convoi transportant quelques 700 membres du personnel des Nations Unies, d'ONG et d'ambassades s'était également rendu à Port-Soudan depuis dimanche. Des milliers de personnes, dont des Soudanais, ont fui ces derniers jours vers les pays voisins. Mais des millions de Soudanais restent bloqués dans la capitale, sans accès aux services de base. L'approvisionnement en eau et en électricité est interrompu et la plupart des hôpitaux sont fermés.
En Guinée, le dernier premier ministre du président déchu, Alpha Condé, inculpé il y a un an, pourrait sortir de prison. La Cour suprême de Guinée a cassé le pourvoi en cassation du procureur spécial de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, qui accuse Kassori Fofana de détournement de deniers publics. Notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
L'information a été confirmée par les avocats de l'ancien Premier ministre. La Cour suprême a rendu sa décision mardi, rejetant ainsi la demande du procureur spécial de la CRIEF. Le procureur Ali Touré, qui poursuit Ibrahima Kassori Fofana pour détournement présumé de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité, avait saisi la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire à la suite de l'ordonnance d'un juge d'instruction qui a accordé au dernier premier ministre d'Alpha Condé une liberté provisoire moyennant une caution de 3 milliards de francs guinéens. C'est le 17 décembre 2022 que la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CRIEF a ordonné la libération de Kassori contre la volonté du procureur spécial de maintenir en détention l'ancien proche collaborateur du président déchu. Ibrahima Kassori Fofana ainsi que 3 anciens membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry début avril 2022. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Les gardes-côtes libyens ont récupéré mardi les corps de 11 migrants morts noyés, dont un enfant, après le naufrage au large de la Libye de l'embarcation qui devait amener clandestinement environ 80 migrants vers l'Europe, selon un photographe de l'AFP sur place. 4 personnes au moins ont pu regagner à la nage la plage. En Afrique du Sud, la présidence a précisé hier que Pretoria ne quittera pas la CPI, Cour pénale internationale. Elle évoque une erreur de communication de l'ANC, parti au pouvoir, concernant le mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crime de guerre en Ukraine. La présidence souhaite clarifier le fait que l'Afrique du Sud reste signataire du statut de Rome. Cette clarification fait suite à un commentaire erroné lors d'une conférence de presse de l'ANC annoncée la présidence dans la soirée. Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé mardi que l'ANC avait demandé que le pays, critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine pour sa proximité avec Moscou, quitte la CPI qui a émis en mars un mandat d'arrêt contre M. Poutine.
La Minute Éco, Mohamed Rumfa.
Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a procédé mardi à la pose de la première pierre du centre de liquéfaction de gaz naturel de Pointe-Noire, la capitale économique. Pour les autorités congolaises, ce centre, dont le coût de construction est estimé à 600 millions de dollars, permettra de lancer un nouveau volet dans la dynamique de valorisation du patrimoine gazier du Congo, a indiqué le ministre congolais des hydrocarbures. L'Angola a exporté 87,92 millions de barils de pétrole brut, générant 6,92 milliards de dollars de revenus au premier trimestre 2023, a annoncé lundi le secrétaire d'État au pétrole et au gaz, José Alexandre Barroso. Par rapport à la même période l'an dernier, il y a une baisse d'environ 30% des recettes d'exportation. La Chine demeure la principale destination des exportations angolaises, représentant plus de 50% du quota total. Le président malgache André Rajoelina a annoncé mardi le lancement de la construction d'un aqueduc long de 97 km pour lutter contre la sécheresse dans les régions du Grand Sud de Madagascar. Cette infrastructure est composée de deux canalisations, la première pour fournir de l'eau potable et la deuxième pour irriguer l'agriculture, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant qu'elle traversera 60 villages et irriguera les principales plaines de la zone.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le 37e marathon des sables se poursuit dans le désert marocain.
Oui, cette année, plus d'un millier de coureurs représentant 55 nationalités ont pris le départ à Erachidia dans l'est du royaume. Au programme, un parcours de 242 km divisé en 6 étapes quotidiennes dans la fournaise du Sahara au Maroc. La quatrième étape a lieu ce mercredi, c'est la plus longue avec 90 km. L'environnement désertique avec ses plaines sablonneuses, des collines pelées et rocailleuses, sans compter les tempêtes de sable et la chaleur attendue en journée, entre 35 et 40 degrés en moyenne, vont tester la résistance des athlètes. Il y a bien sûr les stars comme le Marocain Rachid El Mourabiti, qui à 41 ans va tenter de remporter sa 10e victoire, ou la Néerlandaise Ragna Deba, qui revient cette année après son succès en 2019.
Ici en NBA, Joel Embiid souffre d'une entorse du ligament croisé.
Oui, la vedette des Sixers souffre d'une entorse du ligament croisé du genou droit et sera réévaluée en milieu de semaine selon ESPN et NBC Sports Philadelphia. Joel Embiid a manqué le match décisif contre Brooklyn samedi. S'il joue, il portera probablement une attelle au genou, selon les rapports. L'entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a déclaré samedi que les tests effectués après le troisième match ont révélé une douleur au genou. Embiid a réalisé une moyenne de 20 points, 11,3 rebonds et 2,3 contre en 3 matchs contre les Nets. Il a fini meilleur marqueur de la NBA pendant la saison régulière avec 33,1 points par match. Embiid, 29 ans, a disputé 66 matchs en saison régulière à deux doigts de son record de carrière établi lors de la saison 2021-2022.
Nicolas Sarkozy visé par une plainte dans l'affaire de l'attribution du Mondial au Qatar.
L'association anticorruption appelée Anticor a confirmé avoir déposé une plainte le 7 avril contre l'ancien président français, son ex-bras droit Claude Guéant et le publicitaire François Delabrosse, soupçonnant l'existence d'impacts de corruption en lien avec l'attribution du Mondial de football au Qatar. La plainte vise aussi l'ancien premier ministre qatari, Ahmad Ben Jassem Al Thani, pour trafic d'influence, corruption entre autres. Une information judiciaire a été ouverte sur les conditions dans lesquelles, le 2 décembre 2010, la FIFA a attribué au Qatar l'organisation du Mondial. Anticorps est partie civile dans ce dossier ouvert en 2019. Les enquêteurs cherchent à déterminer si la désignation du pays du Golfe a donné lieu à un marché donnant-donnant conclu lors d'un déjeuner à l'Élysée le 23 novembre 2010, réunissant Nicolas Sarkozy, alors président, Michel Platini, alors président de l'UEFA, et M. Al Thani, prince héritier du Qatar, devenu émir en 2013.
Merci, Yacouba. De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'attaque du village de Karma, situé à une quinzaine de kilomètres, à une quinzaine de kilomètres de Ouaïguia, dans le nord du pays, a fait plus de 100 morts, selon un témoin. C'est aussi ce qui ressort d'un communiqué des ressortissants et rescapés de Karma. Ils qualifient cette attaque du jeudi 20 avril de tuerie lâche et barbare et accusent des hommes vêtus de tenues de l'armée. Dimanche, le procureur du tribunal de grande instance de Ouaïguia avait évoqué une soixantaine de morts et avait dit que les auteurs portaient des uniformes. Yacouba Ouédraogo a joint un témoin et rescapé du massacre de Karma. Pour des raisons de sécurité, nous ne révélons pas son identité.
Des habitants ont entendu un coup de bruit qui venait du côté est du village. Quelques instants après, on a aperçu donc des véhicules, des motos qui avançaient. Les gens qui sont arrivés dans le village, ils ont quadrillé le village. Et ils ont commencé par donc faire sortir donc la population. Et on a mis donc des gens par groupe, les femmes à part, les hommes aussi à part. Ils avaient commencé un certain temps à récupérer les cartes d'identité nationale. Et ça n'a pas allé loin. Tout en disant que vous êtes là, alors qu'il y a des, au moins trois villages voisins qui guérissent. Pourquoi vous êtes toujours là? Depuis quand vous êtes ici, votre village est un passoir de terroristes. Vous êtes des complices de terroristes. Ils allaient nous traiter comme tels. Là, ils ont commencé donc à tirer donc sur les gens. Les salpés ont tenté donc de tirer, de rentrer dans les concessions. Ils ont poursuivi. Ceux qui ne sont pas pu se cacher, on les a achevés.
Combien de personnes environ ont été tuées? Quand vous dites qu'ils ont commencé à tirer sur les gens, est-ce que vous avez identifié ceux qui sont venus dans votre village? Qui sont ceux qui sont venus tirer?
Quand les premiers moments qui sont arrivés dans le village, ces gens étaient contents parce qu'ils se disaient que c'était l'armée qui était là pour les sécuriser. Ils se disaient qu'ils ont eu la chance parce qu'ils seront plus dégagés parce que l'armée est là, on va les sécuriser, qu'il n'est plus question de dégagement. Et le village est sauvé.
Est-ce que vous avez identifié clairement l'armée burkinabé?
Oui, mais j'étais venu en très très grand nombre. Gouvernement armé, nous estimons que notre présence ou d'autres donc forces ne peuvent pas circuler dans la zone là, avec un dispositif sans que l'armée quand même intervienne. Pour nous, puisque nous avons appelé Kawaïbia, il y a eu donc un mouvement depuis Ouagadougou, l'armée qui est arrivée pour Kawaïbia à 4h comme ça du matin. Ils ont fait peut-être 30 minutes comme ça et ils ont continué donc vers notre zone. Et après donc, à vouloir faire donc, à forcer donc dans notre village, ils ont continué encore. C'est toute la zone là. Il y a des villages encore qui ont été visités.
Quel village par exemple?
Par exemple, Dingiri, Kerga, Sabuna, Néné et Kampas. Quand on quitte les villages, les villages de Waïvia qui sont à côté de nos villages, tous ces villages ont été dégâtés. C'est notre seul village qui est le premier village de contact. Après notre village, maintenant, il y a plusieurs autres villages qui sont toujours là.
Où se trouvent présentement les habitants du village, les rescapés, comme vous?
Il y en a qui sont peut-être dans quelques villages qui sont à côté de Waïvia. La grande majorité est à Waïvia.
Le procureur près du tribunal de grande instance de Waïvia dit avoir ouvert une enquête.
Oui.
Est-ce que vous avez foi que cela va aboutir à l'éclatement de la vérité?
Pour être honnête, non.
Pourquoi?
Parce qu'à partir donc du lundi, on avait voulu donc aller même à Karma pour vérifier, commencer peut-être à enterrer même les morts. Et il y avait donc un dispositif à quelques 9-10 kilomètres comme ça, du village, un dispositif militaire, qui empêchait donc les gens, tous ceux qui pouvaient être dans la zone, ne pouvaient pas passer. Par contre, ceux qui viennent donc du sens inverse, ils continuent jusqu'à Ouaïvia. Nous pensons déjà que c'était donc une manière pour effacer les preuves. Et là, c'est formellement identifié que c'est l'armée. S'ils ne sont pas auteurs, pourquoi? Au lieu donc d'organiser rapidement, pour que les gens puissent aller sur les lieux pour voir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi essayer d'empêcher les gens d'y aller? Il y en a qui vont prendre des photos. Voilà ceux qui viennent du village, vers le village de Karma. Les portables tactiques ont été systématiquement retirés et fouillés. Tous ceux qui viennent vers Ouaïvia en ce moment peuvent passer et venir à Ouaïvia. Maintenant, ceux qui quittent les autres quittent Ouaïvia pour entrer vers Karma, ce n'est pas possible.
C'était un témoin et rescapé du massacre de Karma dans le nord du Burkina Faso. Côte d'Ivoire, l'économie se porte bien. Il en est de même pour les secteurs sécuritaires et sanitaires. C'est ce qui ressort du discours sur l'état de la nation prononcé hier par le président ivoirien Alassane Ouattara devant les députés et les sénateurs réunis en congrès. Le point avec Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Pour le président ivoirien, sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires et la décrispation de la vie politique se poursuit. Au plan sécuritaire aussi, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années.
Avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité pour faire face au banditisme, vers la délinquance et bien sûr le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Des effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes.
Pour une réaction au discours du président Alassane Ouattara, écoutons Zoumana Bakayoko, député RHDP, le parti au pouvoir.
Ce qu'on retient de ce jour, c'est le renforcement des institutions, c'est la planification des calendriers du Parlement et ensuite des élections des députés et des sénateurs. Et surtout, la mise en marche d'un État fort. Et le président a parlé du renforcement de la sécurité, du renforcement de la cohésion entre les acteurs politiques qui vont favoriser le développement de ce pays.
Le professeur Hubert Oulaye, député PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, salue une initiative qui permet d'harmoniser l'action gouvernementale et l'action parlementaire, mais émet des réserves sur les activités menées par le président.
Le président de la République a présenté un état absolument favorable, ce qui est tout à fait normal. Je ne partage pas totalement cette appréciation, mais je ne ferai pas le débat ici. Ce que j'aurais en revanche, c'est l'initiative que veut prendre le président de modifier les sessions parlementaires. Ça nous permet d'harmoniser l'activité parlementaire et l'activité gouvernementale. Et ça, j'apprécie.
Par contre, le député PDCI Bredoumi Soumaïla dit rester sur sa faim car certaines préoccupations des Ivoiriens et non des moindres n'ont été évoquées.
Nulle part le président n'a parlé des difficultés que les producteurs vivent aujourd'hui à commercialiser leurs produits. Le président n'a pas fait cas de la pauvreté et comment l'aborder et les problèmes liés à la cherté de la vie. Le président parle de la macroéconomie, mais la microéconomie qui concerne la vie des hommes individuellement, le président n'a pas fait cas de ça.
L'emploi des jeunes, le financement des groupements politiques, la poursuite du programme hospitalier ont été évoqués aussi par le président Alassane Ouattara dans son premier discours sur l'état de la nation qui rappelle un format connu aux États-Unis, le discours annuel sur l'état de l'Union. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, certains abonnés de deux compagnies téléphoniques du pays, MTN et Orange, ont adhéré lundi à une campagne de boycott des services offerts par ces opérateurs. Les abonnés ont ainsi mis leur téléphone en mode avion pour protester contre les coûts des communications et des forfaits Internet. L'opération, lancée via les réseaux sociaux, a reçu l'adhésion de la société civile et de certaines personnalités politiques. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le lieu-dit avenue Kennedy à Yaoundé. C'est ici que se trouve le siège d'Orange Cameroun, l'un des quatre opérateurs de téléphonie mobile du pays. Stéphanie travaille à cet endroit comme agent commercial dans une boutique de vente de téléphones et d'accessoires. Elle a adhéré à l'opération dénommée mode avion.
Le coût des appels téléphoniques au Cameroun est parmi les coûts élevés en Afrique centrale. 2 heures, c'est petit. Si on pouvait se mettre dans un conditionnement même d'une journée où tous sont désactivés nos téléphones, je crois que là, les choses pourraient changer.
Les Camerounais ont saisi l'opération baptisée mode avion pour dénoncer les désagréments du réseau de téléphonie mobile. Simon Kadjou, commerçant à Yaoundé.
Avant, il y avait ce qu'on appelle multiplication des crédits. Quand tu donnes 1 000 francs,
on multiplie ton crédit pour mieux appeler tout réseau. Mais maintenant, on dit qu'à tel âge maintenant, tu ne peux plus avoir ça. Moi, je ne comprends pas, on favorise plus les jeunes qui n'ont aucune charge. On leur donne le forfait moins cher et pour les responsables qui ont plus de charges, on leur donne plus cher.
Rifo Agbo est opérateur économique. Il ne cache pas non plus son insatisfaction vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile.
Si les gens se lèvent comme ça, comprenez que c'est du sérieux. Vous ne pouvez pas imaginer un pays très pauvre, du tiers monde comme le Cameroun, hein, paye des tarifs très chers, pendant qu'en France, la France qui est un pays développé, paye au moins 15 fois moins cher que le Cameroun. Les réseaux de communication, ce n'est pas normal.
Le Cameroun enregistre plus de 21 millions d'abonnés cellulaires, selon GSMA Intelligence, l'organisme qui regroupe les opérateurs de télécommunications dans le monde. Mais le rapport qualité-prix fait encore défaut, d'après cet abonné.
Est-ce que c'est vraiment de la 4G qu'on nous donne au Cameroun? Est-ce que nous sommes à 3G, 2G? Je crois qu'on doit vraiment s'interroger à ce niveau-là.
Les deux opérateurs concernés n'ont pas réagi à cette opération de boycott de leurs produits, encore moins l'Agence de régulation des télécommunications. Mais à l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs le 15 mars dernier, un responsable d'Orange Cameroun a tenté de répondre aux préoccupations des abonnés sur la cherté des appels au Cameroun. Stéphane Moukouri, chargé des relations publiques et presse à Orange Cameroun.
Un appel d'un réseau vers un autre est forcément surtaxé parce qu'il y a des frais de terminaison.
Il y a des désagréments, c'est vrai, mais c'est aussi parce que la technologie évolue. Nous sommes amenés régulièrement à faire des travaux pour augmenter la capacité, la qualité et vous offrir une meilleure expérience de nos services.
Une minute d'appel au Cameroun coûte en moyenne 91 francs CFA. Il faut débourser 1,53 $, soit plus de 900 francs CFA par gigaoctet. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Journée mondiale contre le paludisme hier, mardi. Chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes par cette maladie qui tue plus de 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne. Au Gabon, c'est la première cause de consultation et d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. Ismaël Obiangze.
Jonathan Tchassou dirige une association de bénévoles. Il tente de sensibiliser les riverains sur les dangers d'un environnement insalubre. Une insalubrité accentuée par l'incivisme des populations qui jettent les déchets ménagers à même le sol. Nous sommes dans un des quartiers à haut risque de transmission du paludisme à Libreville, un quartier nommé derrière la prison.
Effectivement, nous avons remarqué que beaucoup de quartiers sont insalubres et nous sommes donc venus sensibiliser les populations, accompagnés de dons.
Un don de brouettes, pelles, bottes et de gants pour inciter les populations à prendre le relais des actions citoyennes. Olivier Nguema est habitant du quartier derrière la prison. Professeur Simon Jonas Atekbo coordonne un service constamment sous pression au centre hospitalier universitaire Mère-enfant de Libreville. Chaque jour, il enchaîne des consultations pédiatriques.
Attends, ma copine, attends. Voilà.
Plus de peur que de mal pour ce bébé qui a de fortes fièvres. Le test de dépistage rapide montre qu'il est hors de danger. Mais pour le responsable du pôle enfant, une consultation chez le médecin est toujours indispensable. Professeur Simon Jonas Atekbo.
Le paludisme est une maladie potentiellement grave pour l'enfant parce qu'elle peut donner des conséquences neurologiques avec des convulsions. Elle peut agir sur la déglobulisation avec une anémie sévère qui peut faire passer la vie de l'enfant si la transfusion n'est pas urgente. Mais elle peut aller aussi dans les complications rénales avec une insuffisance rénale.
Le Gabon est engagé dans une course contre la montre pour l'atteinte de l'objectif zéro palu à l'horizon 2030 fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Hugues Ronel Essangangomo est chargé de la communication du programme national de lutte contre le paludisme.
Un business plan est en train d'être élaboré pour pouvoir apporter le plaidoyer au niveau national mais également international pour que les partenaires puissent nous accompagner dans cette lutte-là.
Le Gabon sort de 2 ans de Covid qui ont éclipsé les actions de son plan national antipaludique. Il espère beaucoup de son plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières sur le plan local et international.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.